L'esprit critique. Mediapart.
Apollonia Apollonia est un documentaire de la Danoise Léa Globe épousant la vie d'Apollonia Sokol, élevée dans un théâtre, le Lavoir moderne parisien, fondé par ses parents avant de connaître une ascension fulgurante dans le monde de l'art contemporain après avoir été travaillée à New York, y avoir été repérée par un riche mécène de la Silicon Valley, puis avoir été pris en résidence à la Villa Médicis.
Absurdité totale. Elle le dit à personne.
How would you define the modern woman?
It's complicated.
Yeah.
To take women out of social stereotypes and physically set them free.
À l'origine, simple exercice pour une école de cinéma, le film se déploie finalement sur 13 années, épousant la carrière de l'artiste, mais aussi la relation que celle-ci noue avec celle qui la filme, ainsi qu'un troisième personnage, connu du grand public puisqu'il s'agit d'une des fondatrices des Femen, l'Ukrainienne Oksana Chachko, grande amie d'Apollonia Sokol, qui s'est suicidée en 2018. Qu'avez-vous pensé, Raphaël Neuillard, de ce portrait filmé d'une femme qui fait elle-même des portraits fixés sur l'étoile ?
Oui, alors effectivement, si on connaît déjà Apollonia Sokol, on peut avoir l'impression d'une success story avec les étapes que vous avez mentionnées et qui effectivement semblent tracer une trajectoire fulgurante. Si on ne la connaît pas, on découvre les choses au fur et à mesure et du coup, on a l'impression quand même d'un parcours peut-être plus incertain, plus chaotique, avec certaines étapes qui sont d'ailleurs assez saisissantes, on y reviendra sans doute, mais notamment son passage à Los Angeles, qui est quand même le moment le plus sidérant du film, en tout cas pour les gens comme moi qui ne connaissent pas trop le monde de l'art, c'est assez stupéfiant ce qui se déroule. Alors après, effectivement, le film est un portrait croisé ou un portrait en miroir de ces trois femmes avec une forme de mise en abîme puisqu'effectivement, Apollonia Sokol se peint elle-même sous diverses apparences, sous divers costumes. Elle peint aussi d'ailleurs son amie Oksana Chachko plus tard dans son parcours. Et donc, le film, effectivement, tourne autour de cette question de la représentation du corps féminin, avec cette idée qui semble... Enfin, il y a quelque chose qui émerge au fur et à mesure du film. C'est qu'on a l'impression, justement, d'un corps très libéré, d'une certaine manière, qui n'hésite pas à se montrer, à se mettre en scène. Dès les premiers instants, on est dans une grande intimité avec Apollonia Sokol. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, finalement, il y a aussi toute une part plus douloureuse qui émerge justement dans la difficulté d'être un corps en tant qu'artiste, d'avoir un corps. Et c'est aussi quelque chose qui permet à la cinéaste elle-même de s'intégrer dans son film à un moment où elle a une expérience particulièrement difficile suite à son accouchement. Donc effectivement, toute cette question du corps, de l'incarnation, est peut-être, disons, l'un des points de profondeur du film.
Et est-ce que vous avez été un peu... gêné par le ton. À un moment, la réalisatrice parle, il y a une voix off, parle d'Oksana Chachko comme d'une légende et on a l'impression qu'elle veut aussi bâtir la légende d'Apollonia Sokol et que ça donne un ton quelque peu hagiographique.
Complètement d'accord, c'est-à-dire que ça c'est le début du film, on se demande comment on va tenir, bon heureusement là c'est 1h30, mais on a l'impression qu'on va rester enfermé dans cette tentative de la réalisatrice, donc Léa Globe, de fabriquer un monstre, ou en tout cas de fabriquer un mythe. Mais plus on suit, plus on avance dans le film et on comprend qu'elle n'a pas tourné simplement 2 ans au moment du diplôme de la jeune fille, donc de la jeune... Apollonia Sokol, mais que le dispositif filmique est d'une plus grande ambition et que c'est toute la trajectoire de l'artiste et tout l'itinéraire de la jeune fille devenue artiste que le film va suivre. Et à partir de là, notre regard sur cette jeune fille se modifie petit à petit, donc sur Apollonia, pour y voir, en tout cas moi j'y ai vu quelque chose, presque des illusions perdues féministes. C'est-à-dire que ce film, il rentre dans un corpus là, qui est en train de se créer ces dernières années, dont fait aussi partie le film Showing Up de Kelly Reichardt, dont on avait parlé ici, même si c'est une fiction. Des films qui permettent à des jeunes artistes femmes de s'imaginer, de se projeter dans des modèles de trajectoires d'artistes qui commence avec rien, puisqu'on commence à la goutte d'or. Alors certes, dans un cadre privilégié du point de vue de la création artistique, de l'intelligentsia parisienne alternative.
Oui, on est quand même aussi sur les retombées de la bulle Montmartre. Moi, ce que j'ai eu l'impression, ouais, c'est qu'aussi Léa Globe, en tant que jeune Danoise, était un peu fascinée par le romantisme, oui, de Montmartre et inscrivait Apollonia Sokol dans une histoire de bohème
c'est
qui n'était pas
ça.
Forcément complètement la réalité.
Complètement, c'est comme ça que ça commence. Et d'ailleurs, avec les images d'archives de la familiale d'Apollonia, qui nous explique d'ailleurs pourquoi elle accepte d'être filmée et d'être filmée dans son
intimité. Oui, c'est-à-dire qu'elle est habituée littéralement depuis sa naissance à être filmée.
Elle a toujours été un objet. Mais alors, pour nous, féministes, forcément, ça nous amène immédiatement à nous poser la question de qu'est-ce que cette cinéaste femme va faire de la réification de cette jeune fille, d'ailleurs plantureuse, avec un corps généreux hein, et pas du tout anorexique comme celui d'Oksana. Petit à petit, donc on va suivre cette femme, cette jeune femme, d'abord à Paris, dans ses études aux Beaux-Arts, puis à New York et à Los Angeles, où elle devient, comme elle le dit elle-même, un produit industriel, puisqu'elle retrouve un genre de mécène businessman qui offre des box, des ateliers en boîte, qui d'ailleurs font écho avec ces petites maquettes qui émaillent tout le film, donc cette maison de poupées. Et cette petite fille qui joue à la poupée, là, devient une artiste et fait toute une trajectoire, alors qu'on aime ou on n'aime pas, là n'est pas le point, mais en tout cas qui nous permet d'imaginer des modèles de trajectoire d'artiste, en fait, d'itinéraire d'artiste.
Alice Laura.
Alors, c'est intéressant, moi je dirais pas du tout qu'Apollonia Sokol est l'objet d'un regard. Effectivement, elle a été filmée depuis sa plus tendre enfance et même avant son enfance, puisque même sa conception a fait l'objet d'une vidéo familiale qui lui a été transmise comme un héritage. Donc elle a toutes ces images qui accompagnent sa vie et elle a grandi dans un théâtre au milieu de comédiens et d'artistes. Donc elle a effectivement toujours été dans des espaces de représentation. Mais je ne crois pas qu'elle soit un objet ou une femme réifiée. Je crois qu'au contraire, elle est totalement maîtresse de son image et elle est toujours le sujet de son image. Et à mon sens, c'est une des difficultés, c'est une des impasses du film. C'est-à-dire qu'elle maîtrise tellement son image et son personnage que, à mon sens, pour moi, Léa Globe, elle est larguée. Enfin, elle est loin
fascinée.
Derrière.
Non, mais alors moi, c'est la question que je me suis posée. C'est en quoi ce documentaire est autre chose qu'une des opérations de valorisation dont Apollonia Sokol tisse l'ensemble de sa carrière.
Je ne sais pas si moi j'appellerais ça une opération de valorisation, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'effectivement fascinant dans ce personnage. Même Raphaël évoquait tout à l'heure la question du corps. Moi, j'ai été assez époustouflée par le visage d'Apollonia Sokol, qui est un visage qui moi m'évoquait Giulietta Masina. Elle a quelque chose de l'ordre du clown. Enfin, elle est capable. Enfin, elle passe de elle est tellement expressive qu'elle passe de quelque chose qui est de l'ordre de la colère à la farce. Enfin, c'est vraiment un masque. Elle est assez extraordinaire pour
D'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, le film commence comme ça. Elle se prépare, elle se maquille comme pour entrer sur
elle
scène.
Elle a l'air de se maquiller comme un clown.
Elle s'épile
la moustache. C'est assez. C'est vrai que c'est passionnant. Et en même temps, en fait, de ce personnage-là et de toutes ces facettes de cette manière de se travestir, de s'inventer, de se fabriquer, en fait, la réalisatrice n'en tire rien. Et moi, j'aurais aimé qu'à un endroit, entre ces trois femmes, ces trois personnages, il y ait plus de conflictualité qui entre en jeu. Je pense que ça aurait fait surgir quelque chose de plus important dans ce rapport au récit de soi et à la vérité.
Est-ce que, parce que moi c'est vrai que, alors ça suit sur 13 ans, hein, ce qui je pense est vraiment l'intérêt du film, c'est rare d'avoir comme ça la cristallisation, c'est pour ça que je disais que ce film-là lui aussi prenait son temps, même s'il est moins long que celui dont on vient de parler, de celui dont on va parler, mais moi je vous avoue une certaine frustration, au sens où on passe quasiment quand même pas loin de 2 heures en compagnie d'une artiste, et on n'a pas grand-chose de son processus de création, c'est-à-dire que c'est vraiment centré sur la personne, et la peinture reste quand même, il me semble, au second plan, non ?
Oui, absolument. D'ailleurs, du coup, si on considère qu'il y a un processus de valorisation dans ce film, ce qui est peut-être le cas, mais même si ça n'a pas été prévu au départ, effectivement, c'est la valorisation de la personne et pas tellement de la peinture, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, finalement, on voit pratiquement rien de ces peintures. Alors, on en a une vague idée. On voit plutôt au début, d'ailleurs, quand elle peint ses cartes de tarot. Mais plus ça avance et moins on a une idée précise de ce qui se fait. Cela dit, il y a quand même des discours qui sont portés sur ces peintures et des discours qui sont assez intéressants, notamment de la part de ses professeurs. Avec une certaine délicatesse, je trouve, parviennent à dire qu'elle se fourvoie ou que c'est inabouti, mais de manière assez belle. Les peintures même ne sont pas forcément visibles, mais ce qui, en fait, ça infuse quand même la manière, il me semble, de filmer de la cinéaste. Et il y a certains moments, certains plans où on se dit que finalement elle fait du Apollonia Sokol, notamment quand elle est à Los Angeles, Apollonia est sur la plage, elle est assez déprimée par la situation dans laquelle elle se retrouve, et il y a tout un un travail sur le flou, sur le rapport entre le corps et le paysage, qui d'une certaine manière un peu évoqué. Donc là, il y a presque un effet d'infusion. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est pas tellement la peinture ou le geste en tant que tel, que la manière dont cette trajectoire d'artiste s'inscrit dans un certain nombre d'institutions, que ce soit les Beaux-Arts à Paris, ou que ce soit ensuite, encore une fois, à Los Angeles, où il y a effectivement cette séquence est quand même assez sidérante, avec, bon, c'est comme une sorte d'écurie, quoi, et il met des pouliches dans des boxes, et puis il voit ce qui en sort au bout d'un mois. Et c'est
donc il, c'est ce mécène très riche.
Oui, Stéphane Simchovitch.
Une des figures de la Silicon Valley.
Surnommé Satan.
Oui, dont on comprend d'ailleurs qu'il a des relations avec Harvey Weinstein. Donc on avance vraiment dans un terrain très, très miné.
Mais là, c'est le moment d'ailleurs où le film menace de basculer tout à coup dans quelque chose de sordide. Et de ce point de vue-là, il y a un mouvement assez curieux du film dans cette espèce d'ascension qui est marquée en même temps par ces moments de chute et puis de désespoir. En fait, je trouve assez curieusement que le moment du drame qu'évoquait Raphaël autour de cet accouchement terrible de la cinéaste et qui a lieu presque au même moment que la mort de Oksana est curieusement minorée dans le film. Enfin,
c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements tragiques. Hein. Sokol elle-même a un cancer. Il y a ensuite, effectivement, Oksana se suicide. Il y a ce moment de désespoir à Los Angeles. Et en même temps, ça réussit pas. Alors peut-être que c'était ça l'idée de mettre en tension le côté faux-follet d'Apollonia Sokol avec des formes de tragédie qu'elle traverse, du coup, quand même, ou en tout cas, le film donne l'impression qu'elle les surmonte tous. Et là, un peu en contribuant à un côté un peu épique.
Mais il y a vraiment cette forme de l'épopée. C'est l'idée d'une héroïne qui traverse toutes les épreuves et qui en sort victorieuse. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, le film échappe complètement à quelque chose qui aurait pu être au contraire. Qu'est-ce que c'est qu'un processus de création et comment qu'est-ce que c'est que l'inspiration et qu'est-ce que c'est que le travail? Et je trouve même il y a quelque chose qui me frappe, c'est le manque d'idées de mise en scène de la cinéaste, par exemple avec ce modèle des petites maquettes pour représenter les lieux dans lesquels vit Apollonia. Okay, qui est une idée très pauvre.
Mais ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je crois pas que le processus créatif soit au centre du film. Parce que si on en croit le titre, Apollonia, c'est américain. Donc ça nous amène à nous poser la question d'un itinéraire d'exil, bon alors l'exil de la famille, etc., ou du moins d'une trajectoire et d'une tentative d'améliorer son sort ou du moins d'une tentative de rencontrer le succès. Parce que c'est ça dont il est question. C'est pour ça que je parlais des illusions perdues.
Il est un peu légitime de la part de quelqu'un qui regarde un film sur un film documentaire sur une peintre qui est partie vraiment, on l'apprend, elle a même pas son diplôme des Beaux-Arts, où elle arrive à une forme de reconnaissance dans l'art contemporain international,
de voir
comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais. Mais on les voit malgré tout, parce qu'on le voit évoluer son style. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait regretter qu'il n'y ait pas assez de plans longs sur les tableaux, mais on les voit malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au début du film, quand elle fait son entrée à l'école des Beaux-Arts et qu'elle peint justement ce sujet de sa famille, de ses origines, de Biélorusse qui se retrouve en Pologne, ensuite au Danemark, enfin en France et ensuite au Danemark. Bon, il est question de cet univers d'Europe de l'Est ou russophone, on va le dire comme ça plutôt. Il est question de ça et puis ensuite, effectivement, son travail se vide peut-être, comme lui dit un de ses profs. Et ensuite, on voit évoluer son style, on voit évoluer son geste. Les tableaux de fin, qui sont d'ailleurs montrés à la fin du film, ne sont pas ceux du début. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas la même manière de peindre, c'est pas les mêmes lignes, c'est pas le même style. Donc c'est vrai qu'on ne s'y attarde pas dans le film.
Mais
je crois que ce n'est pas le sujet du film. Je crois qu'il est question plutôt d'une trajectoire de femme artiste. Comment devenir peintre quand on est une femme aujourd'hui?
Oui, mais avec une forme, alors parce que du coup ça revient effectivement à la relation entre les trois personnages principaux, avec une petite forme de marketing sororal quand même, non?
Bah ça, c'est la question qu'on va poser à Léa Globe.
Bon, on lui posera. Apollonia de Léa Globe, c'est sorti en salle mercredi dernier.
L'esprit critique. Mediapart.